y a tellement de gens qui se laissent paralyser par leurs questionnements, par leurs peurs, par leurs doutes. Moi, je me suis dit, c'est quoi le risque le plus grand si je me lance à 21 ans? Et en fait, tu te rends compte que peu importe à quelle étape de ton parcours tu es, c'est de te planter, d'être critiqué, d'être jugé, d'être pointé du doigt. Et moi, j'arrive à passer outre cette peur. Et au final, tu te rends compte que avant de faire une action, avant de te lancer, t'as toujours beaucoup à y gagner qu'à y perdre. Le monde va pas s'arrêter de tourner si on échoue. Finalement, mes objectifs, ma vision, mon ambition, elle est bien plus importante que les potentiels échecs que je vais rencontrer et le potentiel jugement qu'on va avoir de moi. Et c'est, à mon avis, une des raisons principales qui fait que j'avance vite et que j'ai des résultats rapidement et des résultats exponentiels.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Margot.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va très bien et toi?
Bah écoute, en pleine forme, content d'être ici avec toi, content d'enregistrer cet épisode qui va être une vraie pépite, une vraie mine d'or encore une fois. Margot, comment on fait aujourd'hui pour être sur internet et ne pas entendre parler de toi?
Je suis très honorée, Alec. Franchement, c'est un plaisir de faire ce podcast. J'ai écouté absolument tous tes épisodes, donc là, c'est vraiment un honneur d'être de l'autre côté du micro. Je suis hyper contente. Merci beaucoup pour l'opportunité et j'ai trop hâte de cet épisode.
Génial. Bah écoute, merci à toi. Je vais rapidement te présenter. Tu es la fondatrice d'un accompagnement plus connu sous le nom de Boost Ton Biz, via lequel tu accompagnes aujourd'hui plus de 500 femmes. Tu leur permets de devenir financièrement indépendante et épanouie grâce à des activités en ligne. C'est vraiment l'objectif et l'initiative de ce que tu mets en place. Tu quittes tes études il y a seulement 3 ans, des études de droit, pour te lancer justement dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, partie de rien, sans forcément avoir un environnement entrepreneurial familial, sans capital initial ni compétences spécifiques, à seulement 24 ans, tu es à la tête d'un business qui a généré jusqu'ici plus de 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est bien avec toi aussi, c'est qu'on peut parler sans tabou de chiffres. On le verra tout à l'heure et on va notamment évoquer certains chiffres qui vont donner le tournis à certaines qui nous écoutent, mais aussi montrer la vitesse d'exécution et la rapidité à laquelle tu crois aujourd'hui. Tu as récemment été sélectionné aussi pour la 4e édition du TEDx Young, justement, où tu as fait une super présentation qui a été assez challengeante, on va en parler. Et puis, tu es aussi connu au quotidien pour partager ta vie d'entrepreneur, tes différents challenges sur les réseaux, en toute transparence, les différents défis auxquels tu fais face et comment tu mets en place ton business et ta architecture, ton quotidien. Il y a un point aussi de particularité qui est assez intéressant, c'est que tous ces chiffres, tu les as fait majoritairement ou essentiellement, uniquement, tu nous le diras, uniquement avec du contenu organique, sans forcément avoir recours à la publicité, dans un marché qui est très saturé où aujourd'hui il faut mettre en place des stratégies très complexes de media buying et autres, c'est assez rare. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pouvoir t'accueillir sur Le Déclic, parce que je sais que Le Déclic, t'en as eu un, t'en as eu plusieurs. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer par ça. Ma première question, elle concerne le moment où tu quittes tes études de droit pour ouvrir ta première entreprise. Tu dis souvent avoir eu un déclic lors d'un voyage, ton voyage en Australie après ta licence. Quel a été le moment décisif qui t'a convaincu de changer de cap et de te laisser partir dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Alors déjà, merci pour la présentation, c'est trop cool. Du coup, ouais, comme tu l'as dit, j'ai eu mon premier déclic, mon premier énorme déclic quand j'étais en Australie. En fait, je suis partie, j'ai fait 3 ans de fac de droit et je suis partie en Australie parce que je me rendais compte que j'étais pas du tout à la bonne place. Je n'aimais pas particulièrement ce que j'apprenais, j'aimais pas particulièrement l'environnement dans lequel j'étais, l'entourage que j'avais, et j'ai ressenti le besoin de m'éloigner, de prendre de la distance pour prendre un peu de recul et comprendre un petit peu mieux où je voulais aller dans le futur. Et en arrivant en Australie, j'avais absolument aucun plan en tête. Dans ma tête, je prenais une année de pause et j'allais reprendre mon master ensuite en rentrant. Et un jour, vraiment par hasard, j'étais dans l'auberge de jeunesse dans laquelle je vivais et je rencontre un mec qui avait 21 ans, il me semble, et qui me dit moi, je suis digital nomade, donc je crée des sites internet et je peux faire le tour du monde en même temps. Mes clients me payent entre 2000 et 3000 euros pour le site internet. J'en ai 2-3 par mois. Du coup, je vis très, très bien. Je voyage en même temps. Je suis indépendant à mon compte. Et ça a été vraiment mon premier déclic parce que je me suis dit, en fait, ce mec-là, il a absolument rien de plus que moi. Il n'a pas fait d'études. Il n'a pas l'air d'être intelligent, enfin, genre supérieurement intelligent. Il a l'air d'être vraiment comme moi. Et pourtant, il a réussi à se créer une vie complètement à son image, à façonner vraiment sa vie pour qu'elle lui ressemble à 200%. Et en fait, ça m'a vraiment fait un tilt. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi vivre cette vie-là, avoir une vie où je peux travailler, où je peux voyager en même temps, où je peux bosser pour moi sans avoir de patron, sans avoir de compte à rendre. Et je n'ai pas directement pris la décision de quitter mes études, de tout envoyer valser, mais ça m'a mis une petite graine. Et en rentrant d'Australie, j'ai commencé à me renseigner sur justement qu'est-ce qu'était le digital nomadisme, quelles étaient les opportunités, quelles étaient les possibilités de métier. Et je suis tombée sur pas mal de choses et particulièrement le métier de community manager. Et en fait, là, ça a été très, très rapide dans ma tête. Je me suis dit, OK, il est hors de question, après un voyage d'un an, que je reparte pour 2 ans de master, même si on peut dire, 2 ans, c'est rien. Au moins, tu finis tes études, tu auras un truc safe, un diplôme. Je ne pouvais pas m'imaginer passer 2 ans de plus à faire un truc que je détestais, alors que j'avais un peu l'opportunité de sortir de ça et de faire quelque chose qui me faisait kiffer. Et du coup, la décision, je l'ai prise en rentrant en France. Je me suis dit, écoute, c'est mort, je ne retournerai pas à l'école. Au pire des cas, je reprendrai autre chose plus tard, je ferai autre chose. Là, j'ai une opportunité à saisir. J'arrête tout, je préviens mes parents, je préviens ma famille. Ça a été hyper difficile à avaler la pilule, mais j'ai pris cette décision hyper rapidement et tout s'est enchaîné de là, quoi.
C'est super intéressant parce que tu dis directement, voilà, je préviens ma famille, je préviens tout le monde, c'est difficile à avaler la pilule. Qu'est-ce qui fait que tu oses et malgré justement les craintes, les peurs, les recommandations peut-être à l'encontre de cette volonté entrepreneuriale de ton entourage, tu y vas quand même alors que finalement, tu n'es pas issu d'un cadre entrepreneurial initial. Et certes, même si tu t'es renseigné avant de prendre cette décision, ça vient d'une rencontre qui se passe complètement par hasard, et puis tu te dis vas-y, j'y vais, c'est maintenant, limite un peu one life, il faut tenter, et pourtant tu sais, il y a beaucoup de gens, et j'imagine que tu le vois aujourd'hui, tu es très présente sur les réseaux, tu as énormément de gens qui te contactent, qui te sollicitent, qui doivent se poser plein de questions. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont littéralement paralysés et viennent éteindre cette petite flamme qu'ils ont au fond d'eux, qui est leurs ambitions, à cause justement du regard des autres ou à cause de cette prise de risque. Qu'est-ce qui fait que chez toi, spécifiquement, tu as outrepassé ça relativement rapidement? Parce qu'un des traits de caractère que tu as, c'est cette énergie qu'on ressent quand on t'entend, quand on t'écoute, et aussi cette rapidité d'exécution que tu as déjà évoquée à plusieurs reprises. Est-ce que ça a été vraiment capital pour toi, ça, spécifiquement, ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'a permis d'aller de l'avant?
Ouais, alors moi, je pense que un des facteurs vraiment de ma réussite et de ma croissance rapide, c'est ça justement, c'est que j'ai une capacité et qui est, je pense, assez naturelle chez moi, donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Je pense que ça peut se travailler, enfin même je suis sûre que ça se travaille, et c'est ce que je bosse énormément avec mes clientes, parce que comme tu dis, il y a tellement, tellement de gens, une grande majorité de gens qui se laissent paralyser par leurs questionnements, par leurs peurs, par leurs doutes, et qui du coup passent tellement de temps dans leur tête et du coup forcément tellement peu de temps à agir que forcément les résultats prennent du temps à arriver, voire n'arrivent jamais parce qu'ils se lancent jamais. Et moi j'ai ce truc d'être comme tu dis un petit peu en mode one life, un peu genre qu'est-ce que je risque vraiment à essayer. Genre là, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit vraiment c'est quoi le risque le plus grand si je me lance à 21 ans après avoir fait 3 ans de droit. C'est quoi vraiment le pire scénario qui va se passer? Et moi, j'ai toujours ce réflexe-là de me demander, OK, qu'est-ce que je risque si je le fais? Et en fait, tu te rends compte que peu importe à quelle étape de ton parcours tu es, tu risques jamais grand-chose. En fait, la seule chose que tu risques, c'est d'échouer, c'est de te planter, et c'est peut-être d'être critiqué, d'être jugé, d'être pointer du doigt. En fait, je pense que c'est la plus grande peur de tous les entrepreneurs, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. C'est la plus grande peur de tous les gens, je pense, en règle générale. Et moi, j'arrive à passer outre cette peur en faisant un peu une balance entre tout ce que j'ai à perdre si jamais j'ose pas le faire, si jamais je le fais pas, quelles sont toutes les choses à côté desquelles je vais pouvoir passer et me demander aussi quel est le pire scénario qui va m'arriver si jamais j'ose et que ça marche pas comme je veux. Et à côté de ça, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce que je pourrais obtenir si jamais je réussis à oser, si j'arrive à passer outre mes peurs, outre la peur de l'échec, outre la peur du regard des autres. Et au final, tu te rends compte que avant de faire une action, avant de te lancer, t'as toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. En soi, dans l'entrepreneuriat, on joue pas notre vie, on joue pas la vie de qui que ce soit, le monde va pas s'arrêter de tourner si on échoue, personne va tomber malade, personne va mourir. Et finalement, en ayant toujours en tête le fait de me dire, même si je me casse la gueule royalement, même si j'échoue, je me plante en beauté devant tout le monde, même si on me juge, même si on me pointe du doigt, même si on rigole de moi, même si je me sens honteuse, je me sens incapable, je me sens nulle, peut-être que ça va arriver, mais il y a de grandes chances que je réussisse finalement à aller où je veux. Et finalement, mes objectifs, ma vision, mon ambition, elle est bien plus importante que les potentiels échecs que je vais rencontrer et le potentiel jugement qu'on va avoir de moi. Et en fait, j'ai pas envie de me réveiller un jour à l'article de ma mort et de me dire en fait j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas osé faire ci, faire ça à cause de ce que les autres allaient pouvoir penser. J'ai envie de me dire que j'ai tout tenté, que j'ai tout essayé, des fois j'ai réussi, des fois j'ai échoué et je pense que c'est comme ça que j'avance. Et c'est, à mon avis, une des raisons principales qui fait que j'avance vite et que j'ai des résultats rapidement et des résultats exponentiels.
Complètement, je pense que tu as tout dit et beaucoup de gens qui nous écoutent doivent écouter ce que tu viens de dire. J'inviterais même à retourner en arrière, mettre pause et prendre des notes si vous ne l'avez pas fait. Je vais revenir sur ton parcours rapidement et on y viendra sur les secrets, entre guillemets, même si on sait tous les deux qu'il n'y a pas vraiment de secret de la réussite, du succès ou peu importe comment on appelle ça. 6 mois seulement après t'être lancé dans l'entrepreneuriat, finalement, dans un statut auto-entrepreneur, tu fais cette transition et tu dois passer en société. Dit autrement, tu as quand même une croissance relativement rapide, tu génères un certain chiffre d'affaires rapidement et donc tu n'as pas besoin de passer par cette phase où parfois pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne voit pas le bout parce qu'on n'a pas encore le fruit, on ne récolte pas le fruit de notre travail. Comment t'as fait? Comment t'as géré cette transition rapide? Comment est-ce que tu l'as vécu? Et qu'est-ce que t'as mis en place au départ quand tu t'es lancé pour pouvoir générer tes premiers milliers d'euros, tes premiers dizaines de milliers d'euros?
Ouais. Moi, les premières actions que j'ai mis en place, c'est créer du contenu du coup sur les réseaux sociaux et à côté de ça, discuter, échanger quotidiennement avec mes abonnés, avec mon audience. C'est vraiment les deux actions que j'ai répétées presque bêtement tous les jours pendant 6 mois et même bien plus longtemps après parce que j'ai continué pendant très longtemps avec ce système-là. Et je pense que ce qui a fait aussi que j'ai eu rapidement mes premiers résultats, c'est que j'ai été hyper constante et que j'ai fait les choses en grand. C'est-à-dire que moi, les 6 premiers mois, je ne faisais que ça. Je ne conseillais pas forcément de travailler 7 jours sur 7, de 7 heures du matin à 23 heures minuit parfois. Mais moi, c'est ce que j'ai fait et c'est aussi pour ça que ça a été vite. C'est que tous les jours, je me réveillais, je créais 2-3 contenus, je faisais des stories et je passais 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures par jour à discuter avec mon audience. Et au début, je pense que c'est aussi une des raisons qui ont fait que, c'est qu'au début, je savais que je voulais créer un business et gagner de l'argent, évidemment. Mais en fait, je n'étais pas vraiment portée par je veux faire tant d'euros, je veux générer tant d'argent. J'ai vraiment trouvé du plaisir dans les actions que je faisais. J'ai vraiment trouvé du plaisir dans créer du contenu, partager sur les réseaux sociaux, discuter avec les gens qui me suivaient, m'intéresser à eux, poser des questions. J'avais lu un livre qui s'appelait « Comment se faire des amis », il est hyper connu, et ce livre-là, il m'avait grave chamboulé, et il m'avait grave appris, en fait, comment est-ce que tu crées des liens, comment est-ce que tu crées des relations, et j'ai appliqué ce livre-là dans mes échanges sur Instagram. Et je passais plusieurs heures par jour à poser des questions à mes abonnés, mais en privé, à leur demander un petit peu quels étaient leurs objectifs, leurs ambitions, pourquoi est-ce qu'ils étaient sur Instagram, quels étaient leurs projets, c'était quoi leurs difficultés en ce moment, leurs problématiques. Et je le fais vraiment par plaisir de le faire et pas en me disant « Ok, il faut absolument que je les amène vers un appel découverte et que je les close ensuite. » Et je pense que le fait d'avoir vraiment kiffé les actions que je faisais sans être trop dans une pression, sans être dans une trop grosse attente du résultat, ça m'a permis de lâcher prise et d'être vraiment dans une énergie où je kiffe, je fais ma vie, j'adore ce que je fais et les résultats viendront quand ils viendront. J'avais la chance d'être chez mes parents à ce moment-là, de ne pas avoir de loyer, de ne pas avoir de courses à payer, d'être logé et nourri. Donc, je n'avais pas une pression financière de fou. Et du coup, je me suis laissé le temps. Et en fait, en me laissant le temps et en lâchant prise, et en faisant tous les jours ces actions primordiales qui étaient de créer du contenu et de créer du lien individuellement avec mes abonnés, en fait, il ne s'est rien passé le premier mois, il ne s'est rien passé un mois et demi, deux mois. Et en fait, presque du jour au lendemain, j'ai eu une première demande, une deuxième, une troisième, et après tout s'est enchaîné hyper rapidement. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancée et que j'ai réussi à avoir mes premiers résultats en quelques mois, quoi.
Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu leur vendais justement à ces premières sollicitations ?
En gros, moi, vu que j'avais fait une formation du coup de community manager, mais j'ai jamais vraiment été CM. Enfin, j'ai eu un petit contrat quasiment gratuitement. Enfin, c'était 50 euros par mois. C'était vraiment pas ce qui me permettait de vivre. Je me suis rapidement rendu compte que être dans l'exécution et faire le contenu pour les autres, ça me saoulait. Mais par contre, je me suis découvert très rapidement une passion pour la création de contenu en tant que telle et la création de communauté. Et la création d'une audience. Et en fait, avant même que moi je réfléchisse à quelle offre j'avais envie de créer, quelle offre j'avais envie de vendre, j'ai réussi à développer une communauté, j'ai réussi à gagner des abonnés, j'ai réussi à avoir une audience engagée, je créais du contenu tous les jours, je créais du bon contenu. Et c'est les gens, enfin plusieurs personnes qui sont venues me demander comment tu fais pour avoir ce lien-là avec tes abonnés, c'est quoi les actions que tu mets en place pour avoir autant de likes, autant d'engagement. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser dans ta création de contenu ? Et avant même que je réfléchisse à ce que j'avais envie de lancer, les gens ont commencé à me poser des questions. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais presque naturellement, y a des gens qui galéraient à le faire, qui ne comprenaient pas comment le faire. Et j'ai commencé, en fait, j'ai pris au début 2-3 personnes en leur disant, je ne les ai pas fait payer. Je leur ai dit, je vais vous aider un peu, je vous prends toutes les trois. On va travailler ensemble pendant un mois, on va faire une visio par semaine. Je vais vous expliquer comment je fais pour créer un calendrier éditorial, comment est-ce que je fais pour être présente tous les jours, qu'est-ce que je dis à mes abonnés, comment est-ce que je crée du lien. Et vous allez me faire un témoignage client en retour et on verra les résultats que vous avez. Et en fait, je me suis rendu compte que je les ai énormément aidés et qu'il y avait un énorme besoin à ce niveau-là. Et c'est suite au retour que j'ai eu que je me suis dit, je peux créer une offre un peu de coaching, réseaux sociaux, formation réseaux sociaux pour aider les gens à communiquer et à créer une communauté sur les réseaux. Et c'est après que j'ai pris le virage plutôt business, quoi.
Ok, très clair. Ouais. Tu crées une communauté, tu identifies un besoin, tu vois aussi tes forces, tes facultés, tu réponds à ce besoin, puis ensuite, tu as pivoté, tu as ajusté aussi parce que centre d'intérêt, j'imagine, mais également parce que ça fait beaucoup plus de sens. C'est ce que les gens recherchent dans la finalité, bien c'est sûr. Cette quête de liberté. C'est pas forcément juste savoir communiquer pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir une liberté. C'est ça. Très intéressant et d'autant plus que ça s'est fait rapidement. Donc félicitations pour ça encore une fois. Et à un moment donné, ça avance même vite. Et j'ai pu écouter deux trois de tes échanges, trois de tes interviews, notamment une interview intéressante avec Oussama. C'est comme ça que j'étais tombé sur toi et que j'avais découvert davantage sur ton parcours. On a aussi des amis en commun, donc j'ai pu poser deux trois questions à gauche à droite. Et tu dis souvent avoir vécu à plusieurs moments d'ailleurs des moments de rupture émotionnelle. Notamment où tu mets ton projet, ton entreprise complètement de côté, complètement en pause. Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, consciemment ou inconsciemment. Et ma question, c'est, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu as réussi à restructurer aujourd'hui ton entreprise pour assurer un meilleur équilibre dans ta vie, dans ton quotidien, et pour aujourd'hui connaître une croissance beaucoup plus conséquente et qui plus est, qui soit pérenne, parce que au moment où on se parle, ton objectif sur ce mois de novembre, cet épisode va sortir d'ailleurs dans quelques jours après son tournage, tu as pour objectif d'aller générer 400 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un bel objectif, on peut en parler parce que tu l'annonces sur tes réseaux et tu es très transparente sur tes chiffres. Tu as déjà généré, on en parlera tout à l'heure, sur le mois de septembre ou octobre, un très beau chiffre d'affaires. Donc, j'imagine que pour pouvoir tendre à aller chercher ce type de résultat, tu as dû reconsidérer, repenser ton socle, tes fondations, ta structure. Quelles ont été les mesures mises en place pour te permettre d'éviter ce type de situation problématique qui peuvent réduire ta croissance?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
C'est hyper intéressant comme question et je pense que ce que j'ai d'abord mis en place avant la structure et les fondations, ça a vraiment été par rapport à moi-même. Enfin, je pense que j'ai dû énormément travailler sur moi et énormément travailler sur un aspect de ma personnalité qui m'a du coup causé énormément de gros down qui ont, par exemple dans ma vie personnelle, qui ont impacté complètement ma vie professionnelle et qui m'ont amené à laisser de côté complètement mon business. C'est que je suis hyper sensible et hyper émotive, j'ai tendance à être aussi pas mal anxieuse, pas mal angoissée, et je cogite énormément et je peux facilement me laisser emporter par mes émotions. De base, je suis comme ça, je l'ai toujours été, j'étais plus jeune, je l'ai été, enfin voilà, ça a toujours fait partie de moi. Et c'est vrai que quant à ce trait de personnalité, et je pense qu'on est, on est nombreux à l'avoir et je le retrouve aussi beaucoup chez mes clientes, c'est très difficile de gérer une croissance stable, pérenne, sur le long terme et de réussir à décorréler les problèmes que tu vis dans ta vie personnelle et les angoisses que tu peux avoir et les pensées qui peuvent t'emporter parfois et la croissance de ton business. Et j'ai eu pendant 6 mois en 2022, une de ces périodes comme ça qui était vraiment hyper dark en termes d'émotions et qui m'ont amené à, pendant quasiment 6 mois, laisser mon business de côté, laisser mon équipe de côté, à un tel point que quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai eu une discussion avec ma mère où je me disais, mais en fait, je ne sais pas si je vais continuer, je ne sais pas si je vais réussir à me relever, si je vais réussir à repartir. Et là, je te dis ça, c'était il n'y a même pas un an. Donc, en fait, j'étais tombée dans une période où je ne pouvais plus ouvrir mon ordinateur tellement je faisais des crises d'angoisse, je n'arrivais plus à dormir. Des fois, je dormais même avec ma mère, j'arrivais plus à travailler, c'était impossible pour moi. Et bref, j'ai passé cette période-là. Petit à petit, je me suis remis à travailler une heure par-ci, par-là. Je suis retournée à la salle de sport, j'ai été voir une psy. Enfin, je me suis reprise en main petit à petit. Et avec un peu de recul et en étant un petit peu sortie de cette période-là, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible, c'est pas possible de réussir à construire l'entreprise dont je rêve et de mener à bien le projet et la mission que j'ai envie d'accomplir si, à chaque fois qu'il y a un coup dur dans ma vie perso, ça impacte à ce point-là mon activité. Et j'ai vraiment décidé de faire un énorme, énorme, énorme travail sur moi. Donc, je l'ai fait en étant accompagnée. J'ai suivi une thérapie, j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel, sur le stoïcisme, sur la gestion des émotions, sur la gestion de nos pensées, etc. Je me suis énormément formée là-dessus. J'ai fait un exercice aussi qui était de prendre un petit carnet, d'avoir toujours un petit carnet sur moi. Et dès que je sentais les émotions d'angoisse monter, dès que je sentais l'anxiété monter, prendre des notes de quelle pensée m'avait généré cette émotion-là, qu'est-ce qui faisait que je ressentais ça à cet instant-là. Et en fait, au fur et à mesure des mois, j'ai appris à mieux comprendre et à mieux connaître ce qui me générait de l'angoisse, ce qui me générait du stress, de la frustration, de l'anxiété. Et du coup, à mieux maîtriser mes pensées, régler les problèmes en amont et apprendre à mieux me gérer, en fait. Et je pense que c'est le truc principal qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette croissance-là, c'est d'être devenue en fait la personne capable de gérer un business en pleine croissance, d'être capable de ne pas me laisser impacter, envahir par tous les tracas du quotidien, de prendre de la distance avec mes émotions ou avec ce que je traverse, et surtout de décorréler ce qui m'arrive dans ma vie perso et ce qui m'arrive dans ma vie pro. Et je pense que le plus gros changement que j'ai mis en place, il était vachement plus mindset que structurel, même si évidemment maintenant j'ai réussi à créer une équipe, je suis vachement bien entourée, je peux de plus en plus me détacher vraiment de l'opérationnel et du coup je peux beaucoup plus me protéger des éventuelles galères qui peut arriver. C'est vraiment un changement identitaire que j'ai mis en place plutôt que structurel.
C'est hyper intéressant et merci de nous partager tout ça. Il y a peu de gens qui seraient capables justement de nous partager tous ces éléments en transparence, et tu évoques ici une vraie introspection sur soi. Mmh. Et il y en a peu qui le font réellement. Un autre point justement que je voulais évoquer aussi avec toi, c'est qu'aujourd'hui, alors ça change de plus en plus, notamment grâce à des personnes comme toi, comme Justine, comme Aline, qui ont aussi pour initiative, pour ambition, pour envie de créer des business qui permettent de mettre en avant les femmes et puis leur permettent de développer. Je les cite parce qu'elles sont aussi passées sur le déclic il y a de ça quelques semaines ou quelques mois également. Et en tant que femme entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'il y a des challenges que tu as rencontrés qui sont liés au fait que tu sois justement une femme? Je te pose cette question parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, sur LinkedIn, Justine en parlait au travers d'un post, ouais, que j'ai trouvé super pertinent. Comment est-ce que tu expliques ça, et comment est-ce que tu expliques aussi le fait que, même si notamment grâce à des personnes comme toi, ça se ressent de moins en moins, il y a majoritairement des hommes qui soient présents sur la place entrepreneuriale francophone, et j'insiste francophone, parce que dans d'autres pays ou à l'international, ça se ressent quand même moins, même si ça se ressent quand même. Et tu vois, je te donne un exemple concret. Moi, pour ma part, dans nos programmes intermédiaires, on a autant des hommes que des femmes. Dans mes équipes, j'ai plus des femmes que des hommes. Mais dans mes consultings plus avancés, j'ai dû accompagner sur 50 clients, peut-être 3 femmes. Dans notre mastermind, on a 35, 40 membres. On a une femme. Deux femmes, pardon. Donc, tu vois, c'est vraiment une grande question, moi, que je me pose. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notamment sous le déclic, on invite de plus en plus de femmes. C'est littéralement un brief qu'on a établi dans nos process parce qu'on veut mettre en avant l'entrepreneuriat aussi féminin et motiver celles qui nous écoutent. Je vais dire celles et ceux qui nous écoutent, mais celles qui nous écoutent aussi, pour promouvoir l'entrepreneuriat à tous. Du coup, quelle est ta vision là-dessus, toi qui au quotidien, on a fait de cette vision une réelle mission?
Alors déjà, je trouve que c'est vraiment génial de mettre en avant de plus en plus de femmes sur le déclic, et je pense qu'il y a pas mal de podcasts qui sont en train de prendre ce virage-là, et je trouve ça incroyable parce que effectivement, en fait, je pense qu'il y a plein de raisons qui font que, mais une des raisons principales, c'est que en fait, on n'entend pas, on voit pas de femmes qui s'expriment, de femmes qui sont à la tête d'énormes business, qui ont des énormes ambitions. On les voit beaucoup moins, on les entend beaucoup moins. Et je pense que ça vient de base, peut-être d'un conditionnement plus général qui remonte à je sais pas, plusieurs centaines, milliers d'années, où on n'a jamais vraiment appris aux femmes on les a jamais comment dire. On a beaucoup plus appris aux hommes à gagner de l'argent, à nourrir le foyer, à aller chercher des ambitions. Enfin, c'est hyper ancré dans les valeurs des hommes d'être ambitieux, de gagner de l'argent. Les hommes ont aucun problème, tu vois, à dire je veux être millionnaire, je veux faire beaucoup d'argent. Et pour les femmes, c'est radicalement différent. Même si, encore une fois, aujourd'hui, ça évolue et moi, j'ai plus que tout envie de contribuer à ça. Je pense que vu qu'on n'a jamais trop appris ça aux femmes. Il y a encore 50 ans de ça, les femmes, elles n'avaient même pas de compte bancaire, elles n'avaient pas le droit de disposer d'argent comme elles le souhaitaient. On a encore un énorme travail à faire pour arriver à un équilibre entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je trouve que ça avance de plus en plus vite. Moi, je suis hyper contente de ça. Je suis hyper contente de... Enfin, j'ai pas... comment dire, je suis pas hyper critique contre ça et j'ai pas envie de me plaindre et de déplorer ça parce qu'au contraire, je trouve que ça avance de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui sont mises en lumière, qui s'expriment, qui prennent la parole. Mais je pense que les femmes ont plus peur de le faire, ont plus peur d'être critiquées, ont plus peur de pas être à la hauteur parce que, encore une fois, je pense que c'est pas parce qu'elles sont nées femmes, mais parce que c'est un peu un conditionnement en général, qui est accentué par le fait que, bah, vu que les femmes ne voient pas spécialement d'autres femmes qui s'expriment, bah, elles ont forcément moins de représentation, donc bah, elles ne vont pas forcément y aller. Moi, je sais que quand je me suis lancée, par exemple, je tape « interview entrepreneur » sur YouTube, il y a zéro femme, il y a zéro interview, zéro success story en France, surtout, où on entend des femmes, où on les voit s'exprimer. Et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que, bah, que les femmes se lancent moins, et aussi que, je pense que les femmes se lancent de plus en plus maintenant qu'il y a, qu'il y a cette nouvelle vague de business en ligne. Je pense que c'est le genre de business où il y a zéro barrière à l'entrée et où être une femme, ça t'empêche en rien d'avoir les mêmes résultats qu'un homme, comparé à des business peut-être où tu dois avoir, où tu dois, je sais pas, investir, trouver des investisseurs, ou alors des gros postes dans des grosses entreprises. Il y a encore, je pense, des difficultés quand tu es une femme. Pour le coup, dans l'entrepreneuriat en ligne, je trouve qu'il y a... tu peux être une femme et tu peux aussi bien réussir qu'un homme. Il n'y a aucune barrière qui t'en empêche. Et de plus en plus de femmes se lancent. Maintenant, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur l'ambition qu'ont les femmes qui se lancent. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans mon programme qui... la majorité des femmes qui arrivent dans mon programme sont en mode « bah moi, je veux... lancer une petite activité, je veux faire 2, 3, 4, 5, éventuellement 10 000 euros par mois. Mais voilà, je n'imagine même pas aspirer à plus. Je me suis même jamais posé la question d'aller plus loin. Et moi-même, par exemple, quand je me suis lancée, dire genre je veux être millionnaire, ça sonnait pas bien. Et comparé à un homme qui est beaucoup plus à l'aise avec ça. Et je pense qu'on a encore du travail à faire pour montrer que les femmes ont le droit et ont la possibilité et ont la capacité d'être aussi ambitieuses que les hommes et de réussir aussi bien que les hommes et dans d'aussi grosses proportions. Et c'est pour ça aussi que moi, je parle beaucoup de mes chiffres et que je veux faire des gros chiffres, que j'ai aucun tabou pour en parler, que justement, même j'en joue et que ça fait partie de ma ligne éditoriale à fond. C'est que j'ai envie de montrer à tout le monde, évidemment, mais principalement aux femmes, qu'elles peuvent ne pas se contenter d'une petite activité et que si elles veulent, elles peuvent aussi faire des millions d'euros, elles peuvent aussi atteindre des sommets, devenir la référence, être vues, entendues partout. Et j'ai envie de montrer la voie, en fait, et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur d'adresser mon message aux femmes, de parler d'argent, de parler d'ambition, parce que je pense que j'ai envie d'être parmi celles qui ouvrent la voie et qui montrent aux femmes que c'est possible, quoi.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu évoques, notamment au niveau de celles qui rentrent dans ton programme. Déjà, il faut faire un grand pas mindset pour oser entrer dans un programme d'accompagnement, se faire confiance, investir en soi, etc., que tu sois un homme comme une femme d'ailleurs. En particulier, j'imagine donc une femme en me basant sur ce que tu viens d'évoquer. Et un deuxième point très intéressant que j'ai envie de souligner, on va en parler, c'est le fait qu'elles arrivent et qu'elles disent « voilà, je veux gagner quelques milliers d'euros, éventuellement 5, 10 000 euros par mois, etc. » Mais pas tout de suite cette mention à vouloir faire des millions. Or, moi, je le vois depuis 2017 jusqu'à 2021, on va dire, on a pu accompagner à peu près 7 500, 8 000 personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, donc faire finalement exactement ce que tu fais, mais on était plus global, plus généraliste et on s'adressait aux hommes et aux femmes. On attirait à 97% quand même des hommes. Peut-être que j'ai une communication un petit peu trop tostéronée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le constat qu'on en a fait. Et tu vois, directement, lorsque les hommes arrivaient, ils étaient en mode tout de suite, voilà, 10 000 euros par mois pour eux, c'était qu'une étape. Et c'était la target initiale. Donc souvent tu dis voilà, vise la lune, au pire tu tomberas dans les étoiles. Donc certains sont tombés dans les étoiles, voire même restés sur terre, parce qu'à un moment donné tu as des ambitions, c'est bien, mais il faut quand même y mettre les actions en face. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez drôle. Et qu'est-ce qui explique selon toi aussi cette notion d'avoir des ambitions modérées? Est-ce que finalement elles en ont tout autant, mais elles n'osent pas forcément l'exprimer par peur du regard des autres, peur d'être jugées ou autre? Est-ce qu'elles en ont pas forcément mais j'y crois pas, cette hypothèse personnelle, mais à toi de nous dire. C'est quoi ta vision de la chose, ayant aujourd'hui quand même plus de 500 femmes que tu accompagnes au quotidien dans ton programme et qui ont pour objectif d'aller chercher au moins cette liberté grâce au business en ligne?
Alors moi, je pense vraiment pas que genre, les femmes ont moins d'ambition que les hommes par naissance ou par biologie ou autre. Moi, je pense que... moi, je le vois dans mon programme, par exemple. Une fois... En fait, celles qui sont dans mon programme depuis un an et demi, qui ont eu des résultats, qui ont réussi à avoir cette liberté, il y en a énormément qui sont en mode ben, « Margot, tu m'as permis... » d'avoir cette liberté-là, tu m'as permis d'oser croire que je pouvais faire 10 000 euros par mois. Maintenant, en fait, en te voyant et en t'entendant, j'ai envie de me dire que je suis capable d'aller chercher plus loin, j'ai envie de me dire que je suis capable de faire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Là même, pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai lancé une nouvelle offre justement pour les femmes qui veulent aller chercher 40, 50 000 euros par mois dans l'année à suivre. Et j'ai eu une quarantaine de candidatures. Par rapport à ma communauté, c'est pas énormissime, mais parce que ça demandait d'avoir d'abord un business à 10K par mois et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, tout le monde n'y est pas encore. Mais ça montre que, en fait, une fois que tu leur montres qu'elles sont capables et que tu leur montres que c'est pas mal vu, que c'est pas bien d'avoir des grosses ambitions, elles se libèrent petit à petit et elles commencent à y croire et elles commencent à avoir envie de plus. Je pense que quand t'es une femme, t'as ce truc, et moi je l'ai eu aussi au début, hein, donc je parle vraiment en connaissance de cause, de trouver ça malsain de vouloir beaucoup d'argent, de trouver ça malsain de vouloir être millionnaire et d'être vraiment mal à l'aise avec l'idée de faire des millions, de vraiment gagner beaucoup d'argent. Parce que je pense qu'encore une fois, on n'a jamais été éduqué à ça, on ne nous a jamais montré ça, on n'a jamais eu d'exemple qui nous montrait ça. Et quand des mecs ont aucun problème, et comme tu dis, 10 000 euros, c'est juste le premier palier pour atteindre des millions, créer un empire, devenir multimillionnaire, pour une femme, tu pars avec beaucoup de blocages, beaucoup de croyances, de croyances de « j'en suis pas capable, je vois personne le faire, donc je pense pas que je peux le faire ». Et puis en plus, on m'a dit que c'était pas bien d'être trop ambitieuse, qu'il fallait pas… Ça, c'est aussi un autre truc, c'est que moi par exemple, on m'a beaucoup dit… parle pas, enfin te fais pas trop remarquer, reste un peu à ta place, prends pas trop de place, reste gentil, reste, mais tu vois, on nous incite pas à prendre notre place, à prendre la parole, à vouloir beaucoup, à vouloir être ambitieuse, à vouloir tout avoir, tout obtenir, mais au contraire plus à rester un petit peu dans notre petit coin, pas faire trop de bruit, pas faire trop de vagues. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à travailler encore chez les femmes, et je pense que c'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont globalement moins ambitieuses que les hommes. Moi je pense vraiment pas que ce soit une question de biologie, peut-être qu'il y a un petit peu de ça, j'en sais rien, mais je pense que c'est une énorme part de conditionnement et de manque de représentation aussi, quoi.
Ouais, complètement, je te rejoins. Un autre point, c'est que tu évoques là à l'instant que avant, en tout cas, tu parlais au passé, faire beaucoup d'argent, devenir millionnaire, c'était quelque chose de perçu comme malsain pour toi. J'imagine, comme tu parlais au passé, qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si ce n'est plus le cas, c'est quoi le switch, c'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit « Ok, en fait, non, c'est ok. C'est ok, je peux gagner beaucoup d'argent, je peux générer des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires, je peux aller chercher 1 million, 2 millions, 3 millions par an, je peux devenir millionnaire, je peux aller chercher beaucoup d'argent si j'en veux, et en plus, je peux le communiquer et je peux aider les gens à le faire, je peux en parler ouvertement, publiquement, sur Internet. » Alors qu'on est en France, l'argent c'est tabou, la réussite aussi, alors la France c'est assez hypocrite pour ça, mais ouais, c'est quoi le déclic, le switch qui fait qu'aujourd'hui, sans gêne, tu peux en parler et tu aimes ça?
Ouais. Alors, je pense que déjà, il y a une raison. Moi, j'ai grandi dans une famille très, très anti-capitaliste, anti-argent, anti-riche, très, complètement à l'inverse de qui je suis et des valeurs que je prône aujourd'hui. Et je pense que j'ai eu aussi une rupture avec la vision qu'on m'a imposée depuis toujours. Les riches, c'est pas bien. Gagner trop d'argent, c'est mal. Et puis, les riches, ils prennent tout l'argent des autres et puis ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Et j'ai vachement été élevée avec cette vision-là. Et j'ai jamais trop compris pourquoi on me disait ça et pourquoi on me répétait ça au quotidien. Et je pense que si aujourd'hui je parle autant d'argent et que j'ai envie d'autant en gagner, c'est aussi parce que toute ma vie, un peu, on m'a bridé, on m'a dit que c'était pas bien. Et en fait, moi, j'ai réalisé et j'ai eu un énorme travail à faire sur mes croyances et sur justement ce que je pensais de l'argent, parce que forcément, je suis arrivée un peu dans l'entrepreneuriat avec les croyances de mes parents, même si elles étaient moins poussée et radicale que les leurs. Mais en fait, moi, ce qui m'a aidée à switcher à ce niveau-là, ça a été en fait de repenser un peu l'image que j'avais de l'argent et de réaliser que l'argent en tant que tel, c'est ni bien ni mal, c'est hyper neutre, c'est juste, c'est ce que tu fais de l'argent qui peut être bien, qui peut être mal. Et en fait, c'est bateau, on entend ça tout le temps, mais moi ça m'a énormément aidé de me dire que si je suis quelqu'un de bien, que j'ai envie de faire le bien dans le monde, que j'ai envie d'impacter, que je suis généreuse, que j'ai envie de donner, que j'ai envie d'offrir, mais en fait plus je vais avoir d'argent, plus je vais pouvoir exacerber cette partie de moi que j'ai envie de montrer au grand jour. Et qu'en fait c'est pas parce que tu veux gagner beaucoup d'argent que t'es égoïste et que tu veux t'en mettre plein les poches et que tu t'en fous des autres et que, en fait, t'es quelqu'un de cupide et, voilà. C'est les croyances contre lesquelles j'ai dû me battre avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun tabou, aucune croyance limitante, croyance malsaine par rapport à l'argent. Je pense vraiment que plus je vais avoir d'argent, plus mieux le monde se portera, entre guillemets. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais dans ma vision des choses, je me dis que plus je génère de l'argent pour ma société, pour moi, plus je vais savoir en faire des choses bien, plus je vais pouvoir impacter les femmes, plus je vais pouvoir faire plaisir à mes proches, plus je vais pouvoir moi aussi me régaler, kiffer ma vie. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai aucun tabou à en parler. Enfin, j'ai aucun tabou pour m'exprimer à ce sujet-là. J'ai pas de problème à dire mes objectifs. J'ai pas de problème à dire que je veux être multimillionnaire parce que je sais intérieurement que je ferai quelque chose de bien de cet argent-là et que l'argent que je vais générer va contribuer à améliorer plein de choses autour de moi. Et en fait, d'avoir cette vision-là et de me demander qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là et pourquoi est-ce que je veux le gagner et quelle est la raison derrière, ça m'aide en fait à en vouloir plus, à être OK avec le fait d'en vouloir plus et à être OK avec le fait de le partager au risque d'être critiqué, quoi.
Ouais, complètement. Maintenant que justement on a compris que tu étais OK avec l'argent et que tu sais en générer, notamment, on reviendra tout à l'heure sur un dernier chiffre que tu as partagé. En septembre, tu as fait plus de 230 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'il y a quelques mois, tu faisais 30 000 euros de chiffre d'affaires et ce sans pub en plus. On viendra sur ces éléments, on viendra sur comment tu réussis à faire d'aussi grands et beaux résultats en si peu de temps. Mais avant ça, j'ai envie de revenir sur un événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as récemment partagé que monter sur scène du fameux TEDx que tu as pu faire a été l'une des expériences les plus terrifiantes, mais en même temps les plus incroyables de ta vie. Est-ce que tu peux nous partager justement de cette phase, de cette préparation mentale, préparation physique que tu as dû mettre en place pour cette prise de parole et les leçons qu'il y a derrière?
Alors moi j'avais toujours rêvé de faire un TEDx, c'était dans ma bucket list, mais j'avais jamais vraiment creusé en quoi ça consistait. Pour moi c'était juste, je trouvais ça trop stylé, il y avait tous les personnes les plus inspirantes qui avaient fait des TEDx, donc je voulais trop en faire un. Et en fait quand on m'a contacté sur LinkedIn en me disant on fait un TEDx sur le thème quand l'impossible devient possible, on trouve que ton parcours, ton histoire, ça fit parfaitement avec le thème. Est-ce que tu voudrais participer à la 4e édition du TEDx? Moi, dans ma tête, j'étais trop contente, trop heureuse. J'ai accepté, bien évidemment, directement. Et en fait, je réalisais pas du tout que c'était bien plus que faire une simple conférence ou faire un podcast ou une interview ou un contenu comme j'ai l'habitude de faire. En fait, j'ai dû le préparer presque comme une pièce de théâtre limite, c'est-à-dire que j'ai dû apprendre en l'espace de, en plus on m'a prévenu 3 semaines avant, donc c'était vraiment vraiment short comme délai. En l'espace de 3 semaines, j'ai dû réfléchir à un texte, je devais faire 1500 mots maximum, donc il fallait que je véhicule une idée en 1500 mots, en parlant de mon parcours, mais sans faire du moi-je, en réfléchissant aussi à des choses que les autres allaient pouvoir appliquer. Donc toute la partie réflexion du texte, toute la partie aussi, apprendre à s'exprimer, apprendre à poser sa voix. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper speech, je parle vite, je parle fort, je n'articule pas forcément bien. Et du coup, j'ai eu toute une préparation aussi pour apprendre à poser ma voix, à faire des pauses, à respirer pour laisser des informations être digérées. Aussi la posture que je devais avoir, la manière dont je devais occuper l'espace, comment est-ce que je devais me tenir. Et j'ai dû apprendre tout ça en l'espace de 3 semaines. Et en plus de tout ça, il y avait cette peur, panique que j'ai et qui me vient depuis toujours, de parler devant des gens. Moi, c'est vraiment pas un truc avec lequel je suis à l'aise de manière innée. C'est un truc que je travaille, mais c'est pas du tout quelque chose qui me met à l'aise d'être devant un public. Et du coup, j'ai dû gérer mes émotions, mon stress, mon anxiété, le fait de réussir à faire un discours court, impactant, d'apprendre ce discours par cœur, parce que genre, t'es obligé de connaître le texte mot pour mot par cœur quand t'es sur la scène, et d'apprendre aussi à parler, à m'exprimer pour faire une présentation qui soit lisible et qui impacte réellement. Donc en fait, ça a été 3 semaines où vraiment j'ai fait ça du matin au soir. J'ai mis tous mes projets de côté, j'ai tout arrêté. J'étais focus sur le TEDx, je voulais absolument pas me foirer. C'était beaucoup trop important pour moi. Donc finalement, ça s'est bien passé, même si c'était terrorisant d'être sur scène. C'était vraiment comme une pièce de théâtre, mais j'en retire que du positif. Et en soi, la leçon que j'en retire, c'est encore une fois que peu importe à quel point ce que tu t'apprêtes à vivre est terrorisant, peu importe à quel point c'est hors de ta zone de confort, tu auras forcément toujours plus à y gagner, à le faire, à y aller, à te préparer à fond, à tout donner. Encore une fois, j'aurais pu me foirer sur scène, ça aurait été ok. Mais je pense que ce que j'en retire, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe à quel point l'expérience va être terrorisante, ce sera toujours quand même mieux d'y aller à fond, de tout donner, et puis advienne que pourra.
Complètement, et ça vaut pour absolument tout dans la vie, que ce soit l'entrepreneuriat, monter sur scène, ou quel que soit le domaine. Merci pour ce partage. Et là, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis le début de cet échange et qui va intéresser, je pense, plus d'une personne qui nous écoute, qui a un stade intermédiaire avancé. C'est que concrètement, il y a de ça quelques mois encore, tu faisais plus ou moins 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. En septembre, tu en fais 230 sans publicité. Encore une fois, c'est assez phénoménal et rare pour être mis en avant, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où la publicité est de plus en plus difficile d'être rentable front. La journée du leads est de plus en plus longue. Donc, l'inbound et la capacité à créer un vrai trust organique avec l'audience fait que tu peux capitaliser dessus à long terme, et c'est les mecs ou les nanas qui ont réussi à créer une audience pendant plusieurs mois ou plusieurs années, qui vont réussir à capitaliser dessus, aller chercher beaucoup de chiffre d'affaires. On le voit même nous de notre côté, 90% de notre chiffre d'affaires, même si on dépense beaucoup d'argent en publicité, le chiffre d'affaires direct et non indirect vient de l'organique et de la trust qu'on a créé avec les gens. Mais c'est quand même assez dingue, aussi rapidement, de faire ce pas de géant et cette croissance. Et surtout que derrière, ce n'est pas juste un casse, ce n'est pas juste un mois de septembre qui explose. J'imagine que tu as aussi eu un beau résultat en octobre. Et surtout, là, en novembre, ton objectif, c'est de chercher 400 000 euros. Là, pour le coup, connaissant les chiffres de la place infopreneuriale en francophonie, 400 000 euros, tu fais partie du top 10 des infopreneurs en francophonie sur ta longévité, on va dire, ce qui sont arrivés il y a de ça un an et demi, 2 ans, et du podium des femmes qui expriment l'entrepreneuriat. Donc franchement, c'est assez dingue. C'est quoi le secret? C'est quoi les stratégies concrètes que tu as mis en place Si tu peux nous expliquer un petit peu la journée d'un lead, d'un prospect avant de devenir client chez toi, globalement, les choses que tu as pu mettre en place, on en parlait un petit peu en off rapidement, je te posais 2-3 questions. Ça peut être vraiment intéressant de décortiquer ce système. Je sais que tu mets en place des 5-day challenge également qui cartonnent, différentes choses, donc ça peut être intéressant d'en savoir plus.
Ouais. Bah alors moi, clairement, c'est la stratégie justement du challenge gratuit qui a fait passer mon business à un niveau supérieur. Jusque-là, comme tu le disais, du coup, je faisais 30 000 euros par mois, des fois moins, rarement plus, mais voilà, entre 20 et 30 000 euros. Et en fait, l'idée m'est venue vraiment d'une manière hyper... J'étais dans mon lit un soir et le soir, je cogite énormément à mon business. J'ai du mal à arrêter de penser. Et je me suis dit, simplement, ce serait trop cool que je puisse montrer à mon audience qui me suit et qui achète là un peu au compte-gouttes, un petit peu chaque mois, que je puisse vraiment leur montrer, leur donner un échantillon de mon programme et de ce que je peux leur apporter gratuitement et ensuite de leur proposer de rejoindre. Parce que je me disais, j'ai de la preuve sociale, mes clientes, elles ont beaucoup de résultats, je suis sur Instagram depuis quasiment 2 ans, donc les gens me connaissent, j'ai une communauté, les gens me suivent, me font confiance, mais je me disais, en fait, ils se rendent pas vraiment compte de tout ce que je peux leur apporter à travers mon offre. Et du coup, j'ai lancé un premier challenge, c'était en avril, je crois, et je me suis dit, en fait, je vais simplement réfléchir à mon programme, demander à mes clientes. Il y a une notion qui est hyper importante, c'est que je prends énormément la température auprès de mes clientes. Dès que j'ai une question, dès que je veux réfléchir à quel discours je dois adopter ou quelle offre je peux créer ou quel challenge je peux faire, etc., je demande beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avis à mes clientes. Et du coup, j'ai demandé à mes clientes, c'est quoi selon vous, quand vous pensez à BoostonBiz, quand vous pensez à l'expérience globale de BoostonBiz, c'est quoi les points forts du programme selon vous et qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous marque? Et du coup, en gros, ce qui est ressorti, c'est déjà la valeur du contenu, la communauté et le côté accompagnement, suivi qu'on a énormément, énormément poussé dans le programme. Et ce qui fait aujourd'hui que nos clientes ont autant de résultats, c'est qu'il y a une équipe complète qui est disponible quasiment 7 jours sur 7 pour elles avec des coachings individuels, etc. Et du coup, les trois choses qui sont ressorties, c'est la valeur de ton contenu, la communauté et l'accompagnement. Et je me suis dit, OK, je vais prendre ces trois piliers-là et je vais les offrir gratuitement pendant un challenge sur 5 jours où je vais du coup leur donner de la valeur à travers des vidéos de formation, où je vais leur donner un accompagnement, un suivi, parce que je vais recruter en gros 2 coachs de l'équipe de BoostonBiz qui va venir sur le challenge pour motiver les filles, pour répondre à leurs questions, pour les accompagner. Et je vais mettre en avant de ouf l'aspect communauté en créant un groupe sur Slack, en l'animant quotidiennement, en mettant bien avant dans ma communication que ça va être une communauté qu'il va falloir créer du lien, créer de l'échange, faire un petit réseau en fait et se tirer vers le haut et se motiver. Et en fait, ce premier challenge-là, il m'a déjà permis de faire x2 sur mon chiffre d'affaires d'un mois à l'autre parce que pour la première fois, les filles, elles se rendaient vraiment compte de ce que c'était BoostonBiz en fait et de vraiment comment on se sentait quand on avait tous les jours une vidéo de formation à faire avec un cahier d'exercice à remplir et des actions à mettre en place, des coachs qui te suivent et qui répondent à tes questions et une communauté qui te motive, qui te pousse, une communauté dans laquelle tu peux être toi-même, tu peux partager si tu as un coup de mou ou si tu as une victoire, tu as plein de femmes qui te motivent, si tu as un coup de mou, plein de femmes qui sont là pour toi, pour t'écouter. Et j'ai pu reproduire en fait mon programme BoostonBiz. Et quand je me suis rendu compte de la puissance de ce système-là, je me suis dit OK, en fait, j'ai trouvé, je pense, j'ai trouvé le truc qui allait me faire exploser parce que quand j'ai vu aussi l'énergie dans laquelle ça me mettait, à quel point je kiffais ça, à quel point j'adorais voir cette énergie, cette émulsion pendant 5 jours où il y a des centaines de femmes qui sont là en même temps, qui se tirent vers le haut, qui se motivent. Ça mettait dans un mood de ouf, ça mettait l'équipe dans un mood de ouf et ça mettait les filles dans une énergie de ouf. Et je me suis dit, je sens que j'ai trouvé un truc, j'ai une intuition, là j'ai un feeling, il faut que je pousse jusqu'au bout ce système du challenge. Et je l'ai répété du coup 3 mois d'affilée. Ensuite, c'est passé à une fois tous les 2 mois, maintenant une fois tous les 3 mois. Et en fait, à chaque fois, j'optimise et je cherche à toucher plus de personnes. Donc là, par exemple, aujourd'hui, le système, vu que je vais avoir 4000 personnes en novembre, je peux évidemment pas mettre 4000 personnes sur un même groupe Slack, ce serait complètement invivable. Donc, par exemple, il va y avoir plein de petits groupes Slack. Sur chaque groupe, on va mettre une ambassadrice que j'ai formée depuis un mois et demi pour qu'elle accompagne les filles de son groupe, pour qu'elle les motive, pour qu'elle réponde à leurs questions. Chaque groupe va être du coup animé avec une petite communauté. Il y a tout un système qui a été mis en place, qui a été vraiment rodé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça nous permet en fait de garder ce même niveau de personnalisation, ce même niveau d'accompagnement, de qualité, peu importe combien de personnes il y a. Et je pense que ce système-là, il va me permettre de scaler. Et je pense que je peux aller encore beaucoup plus loin avec ce système-là en continuant à l'améliorer.
Excellent, ouais. Je pense que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est plus ton marketing et ta vente qui fait ton produit, ton succès, ta pérennité. C'est l'inverse, c'est vraiment ton produit qui fait ton marketing, ta vente, ton succès, ta pérennité. Et je pense que tu fais partie de ces rares qui l'ont très vite compris. Et c'est aussi quelque chose que j'identifie beaucoup, d'ailleurs, chez les femmes entrepreneurs. Alors, je ne veux pas faire de généralisation, mais c'est plutôt un point très fort et positif que je mets ici en valeur. C'est-à-dire que peut-être que pour combler une sorte de syndrome de l'imposteur ou justement parce qu'elles ont pour volonté réelle de vendre un produit de qualité, et ce n'est pas juste un discours marketing, souvent j'identifie ça, c'est ce truc de vouloir créer un produit qui vraiment apporte du résultat. Donc, je te rejoins tout à fait. Et merci de nous partager ces éléments. C'est vrai que le 5-Day Challenge, on en voit de plus en plus depuis quelques années en francophonie. Moi, pour la petite histoire, j'avais créé le tout premier sommet virtuel des entrepreneurs en 2000, je ne sais plus quand c'était, le tout début Covid. On devait faire notre deuxième séminaire et boum, après avoir vendu quelques centaines de places, le Covid nous est tombé dessus. Donc, on a créé ce sommet virtuel. Et on l'a fait tous les samedis. Ça durait pas plusieurs jours, mais ça durait entre 5 et 9 heures selon les samedis, avec différents intervenants, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que le premier sommet, on avait eu 1200 inscrits, on avait eu 1000 personnes connectées, et 800 personnes sont restées pendant 12 heures connectées d'affilée. Donc, j'imagine que certains ont fait des pauses sur les aux toilettes ou manger quand même. Hein.
Oui.
Mais selon les stats, en tout cas, c'était assez incroyable. C'est dire en fait à quel point les gens, quand ils vivent une expérience forte avec toi, avec tes coachs, avec ta communauté, et ce sentiment de faire partie de quelque chose, d'un mouvement, c'est puissant. Donc, je te rejoins sur la puissance de ce challenge, de cet exercice. Un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, être une femme dans le business, dans l'entrepreneuriat, en particulier en France et en particulier qui gagne beaucoup d'argent, qui est transparente comme tu l'es, sur tes succès, mais aussi sur tes échecs ou en tout cas sur tes apprentissages, parce que là, on parle beaucoup de réussite, de succès, mais à chaque fois, même quand tu as un challenge ou quelque chose qui se passe ou qu'il y a un truc qui marche moins bien ou un bug quelque part, tu l'exprimes publiquement sur les réseaux et je pense que c'est aussi cette transparence, cette authenticité qui plaît tant. Malgré tout, on peut attirer les faveurs de sa communauté, mais on peut aussi attirer les foudres de la communauté. C'est que beaucoup de gens, malheureusement, le vivent très mal. Beaucoup de gens même arrêtent ce qu'ils font à cause du regard des autres. Toi, dans ton cas, comment est-ce que tu fais pour vivre avec les critiques éventuelles, les haters? Comment tu abordes la critique dans ton quotidien lorsque tu y fais face?
Ouais, alors moi, je suis clairement de la team des gens qui le vivent super mal, encore maintenant. En vrai, c'est pas un truc auquel je me suis habituée plus que ça. Ça a commencé un petit peu, je pense, après la vidéo que j'ai fait avec Oussama, et même un petit peu avant, je commençais à avoir des reels qui faisaient de plus en plus de vues et du coup qui a attiré un trafic pas forcément qualifié. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à avoir une petite critique par-ci par-là de temps en temps, arnaque, etc., à vraiment des dizaines de DM, de commentaires tous les jours, et encore là, c'est encore le cas aujourd'hui, de haine, mais hyper, hyper violente, les critiques classiques, genre arnaque, vendeuse de rêves, Ponzi, machin, mais aussi énormément de critiques par rapport à... Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais que genre que je me prostitue ou que je fais du OnlyFans ou que je fais qu'il y a forcément un mec derrière qui paye pour tout ça, que je suis une grosse menteuse et que je pourrais jamais réussir à faire ça par moi-même, que je devrais retourner à la cuisine, retourner faire le ménage, laisser les hommes parler business. Et ça, dès que je poste quelque chose, dès que je fais une vidéo, par exemple un podcast ou une vidéo YouTube, ou que j'ai, ou par exemple sous les reels qu'on riposte de moi, j'ai vraiment tout le temps des dizaines voire des centaines de retours comme ça dans mes DM aussi. Là, j'avais fait une vidéo avec un mec qui s'appelle Loïc Bourget. Il y a des mecs qui venaient me voir en DM en me disant, ah bah voilà, après Oussama, tu t'es tapé Loïc, bravo, t'as compris la méthode pour arriver au succès. Et bref, et moi j'ai grave encore maintenant du mal à gérer ça. Il y a même des moments où je me suis dit, est-ce que je vais continuer à parler d'argent? Est-ce que je vais continuer à m'afficher? Est-ce que finalement je vais pas être plus heureuse en disant un petit peu moins et en réduisant un petit peu, en lissant un petit peu ma communication, en me faisant un petit peu moins remarquer? Et franchement, c'est un débat interne que j'ai eu, avec qui j'ai discuté beaucoup, avec mes potes et avec ma mère surtout. Ma mère qui voit des commentaires comme ça, qui le vit pas forcément super bien non plus. Et je me suis vraiment demandé, est-ce que je dois continuer? Parce qu'il y a peu de femmes en France qui parlent d'argent, qui en gagnent beaucoup, qui le disent. Et du coup, j'ai l'impression des fois que la frustration, vu que moi, je suis jeune, je suis une femme et je gagne beaucoup d'argent et je le dis et je dis que je vais en gagner plus, je suis un peu la cible facile. Mais en fait, finalement, je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est plus important pour moi de me lisser et de faire un peu moins de bruit pour éviter d'éventuelles critiques de mecs que je connais pas et que je verrai jamais et qui m'importent très peu dans mon quotidien? Ou est-ce que c'est plus important pour moi, ma mission, inspirer les femmes, les motiver, les encourager, les aider à atteindre leurs objectifs, à se dépasser, à devenir de plus en plus ambitieuses? Et en fait, il n'y a pas photo, encore une fois, même si... je dis pas que je le vis forcément bien, et je pense que je le vis déjà mieux qu'il y a quelques mois, et ça va aller de mieux en mieux. Je préfère l'inconfort et le fait d'être un petit peu dans le mal des fois face à certaines choses que je lis, plutôt que m'empêcher de dire ce que je pense et d'inspirer les femmes à atteindre leurs objectifs. Donc je le vis pas forcément bien, mais je sais que j'ai beaucoup plus important à construire et j'essaie de me focaliser le plus souvent possible là-dessus. Et maintenant, j'ai des gens qui gèrent mes DM, mes commentaires et qui suppriment, en fait, et qui suppriment et qui bloquent dès qu'il y a quelque chose comme ça. Et comme ça, j'évite d'être confrontée à ça, quoi.
Ouais, t'as mis un filtre, une barrière, ouais, liée à ça, effectivement. Et en plus de ça, la balance interne que t'as créée entre la douleur d'être face à ces problématiques versus la satisfaction et le bonheur de pouvoir avoir un impact et atteindre tes objectifs, fait que tu as fait ton choix et tu te dis peu importe, de toute façon plus tu vas être visible, plus tu vas réussir, plus tu vas réussir et être visible, moins plus ça va jaser. Mais de l'autre côté, il y a deux camps, quoi. Il y a deux camps, puis en plus, tu as un message qui est assez clivant, parce qu'effectivement, le français n'aime pas la réussite, n'aime pas qu'on parle d'argent, mais tous ont envie de réussir. Donc, c'est assez polarisant, naturellement. Un autre sujet, et justement, cette thématique liée au regard des autres, liée à la place générale qu'a une femme dans la société selon l'esprit collectif, qui est souvent erroné, biaisé, en tout cas selon ma perception, que tu as évoqué là il y a quelques instants avec tes propres termes, me fait poser la question, comment tu trouves cet équilibre pro-perso? Dit différemment et plus crûment, c'était un sujet que tu avais évoqué dans le podcast avec Oussama, et tu avais posé une question, je ne sais plus comment vous étiez venu à ce sujet, mais c'était notamment par rapport au couple. Ouais. Et ça, c'est un sujet que peu de gens justement abordent. Et tu vois, je vais parler en tant qu'homme, parce que je suis mal placé pour parler en tant que femme, beaucoup d'hommes développent une sorte, et peu de gens osent l'admettre, et souvent ce sont des hommes qui soit n'ont pas forcément de courage, soit forcément d'ambition et de force pour aller chercher leurs ambitions, mais développent une sorte de complexe d'infériorité face à une femme qui, elle, a plus d'ambition, brille davantage ou réussit mieux qu'eux. Mmh. Et ce qui fait que pour une femme comme toi qui a vraiment fortement cette capacité à exprimer ses ambitions, sa réussite et à aller chercher ses résultats et donc se donner les moyens de ses ambitions, ça peut créer des complications potentielles lorsqu'il s'agit d'avoir des interactions dans un cadre privé. En tout cas, c'est ma perception que j'en ai, basée sur différents échanges avec d'autres femmes à succès et aussi des échanges avec des hommes qui clairement l'expriment dans un cadre plus privé mais n'osent pas en parler publiquement, n'assument pas tout simplement le fait que, par exemple, leur conjointe gagne beaucoup plus qu'eux ou ait plus d'ambition qu'eux. Et je trouve que ça aussi, c'est un vrai problème dans notre société. Aujourd'hui, toi, comment tu fais face à cette problématique? Est-ce que tu la partages et tu l'as identifiée? Premier point, comment tu fais face à cette problématique si c'est le cas? Et deuxièmement, bah, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Ouais, alors bah, c'est un super sujet. Moi, j'adore parler de ça. Déjà, je trouve ça très, très cool de, ben, genre que certains hommes admettent que c'est effectivement, ça vient d'un petit complexe d'infériorité, parce que moi j'ai discuté énormément de ce sujet-là. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne, les relations entre les hommes et les femmes. Et beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas que c'est un complexe, mais disent en fait que non, c'est normal que le mec doit gagner plus. Et c'est pas que je suis complexée, c'est juste que en fait, moi je suis un homme et du coup je dois gagner plus et du coup je dois trouver une femme qui gagne moins d'argent que moi. Et en fait, c'est un problème que j'ai clairement identifié. J'en parle énormément avec plein de gens, que ce soit des potes, des entrepreneurs que je rencontre et la plupart des mecs que j'ai rencontrés. Me disent non, moi je pourrais pas être avec une meuf comme toi parce que je me sentirais pas à ma place d'homme, je me sentirais pas je me sentirais un peu genre effacée et en fait j'aurais l'impression qu'on me prend ma place. Et du coup moi c'est pas un énorme problème parce que en soi je suis pas à la recherche du grand amour là maintenant, je m'en fous, ça viendra quand ça viendra, mais je sais que je vais avoir des difficultés à rencontrer quelqu'un qui accepte la personne que je suis, qui accepte mes ambitions, qui accepte que mes ambitions vont être de plus en plus grandes et que je me freinerai jamais pour quelqu'un, mes standards vont être de plus en plus élevés, là où j'ai envie d'aller c'est de plus en plus loin. Et je pense que ça freine beaucoup de mecs, je pense que je vais clairement galérer, et j'en parle aussi avec beaucoup de meufs entrepreneuses qui vivent la même chose. Moi je trouve ça je comprends, en vrai, j'ai pas envie de pointer du doigt les mecs, parce qu'en vrai, je comprends de ouf. C'est vrai que, je vais pas parler du coup non plus à la place des hommes, mais vous avez quand même une pression sur les épaules de devoir subvenir aux besoins, de devoir mettre bien la famille, de devoir gagner beaucoup d'argent, de devoir être un vrai homme. Et donc forcément, je comprends que ce soit pas évident d'être avec des femmes comme moi, par exemple. Mais je pense que... Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Et moi, dans l'idéal, je me dis que ça pourrait être motivant pour les hommes, justement, de voir des femmes qui réussissent et de se dire, si elle en est capable, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux me donner les moyens d'aller encore plus loin. Et je pense que y a... pas mal. En vrai, c'est sûr qu'il y a quand même des hommes qui seraient OK avec ça et que ça motiverait. Je pense que c'est pas une majorité et que du coup, forcément, je vais peut-être plus galérer qu'une femme qui a pas toutes ces ambitions-là et qui a pas ce chiffre d'affaires-là, ce niveau de vie-là. Mais je m'inquiète pas, je me dis que bon, il y aura forcément quelqu'un qui sera OK avec ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et que je trouve ça, dommage. Et je sais que ça va être plus difficile pour moi potentiellement que pour quelqu'un d'autre, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas, dis-moi. Ça m'intéresse d'avoir ton avis, en vrai.
Oui, complètement. Déjà, il y a trois éléments qu'on peut souligner là. C'est que le premier point, tu évoquais un sujet, tu disais ils disent qu'ils devraient trouver une femme qui gagne moins. Ça dépend, parce que c'est qu'une question de perception et de mindset. C'est un positionnement. Plutôt que de se dire mince, je dois trouver une femme qui gagne moins, c'est plus ok. Comment je fais pour gagner beaucoup plus? Ouais. Et tu vois, c'est cette notion de motivation que tu évoquais. Donc ça, c'est le premier point qui peut être plutôt quelque chose qui te tire vers le haut, plutôt quelque chose qui va te rabaisser, créer un complexe. Le deuxième point, qui est plus du coup pour toi en l'occurrence, c'est que effectivement aujourd'hui, tu es dans un cadre où la plupart des personnes que tu côtoies sont des entrepreneurs, qui plus est des entrepreneurs en ligne. Et au stade là où tu es, sur le marché français, tu es sur des plages élevées, on va dire, de résultats que la plupart des entrepreneurs hommes n'ont pas sur le marché français. Beaucoup disent gagner des millions, très peu en font, et en chiffre d'affaires, hein, même pas en bénéfices. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, ça crée un double complexe pour eux, parce que premièrement, ils voient une femme qui gagne plus, et deuxièmement, même en mentant, tu gagnes quand même plus. Donc c'est un vrai problème. Et le troisième point, c'est tout simplement, pour moi, c'est pas du tout un challenge pour toi de trouver la personne idéale si ce serait ta target. Tu évoques le fait que ça ne l'est pas, donc c'est excellent. Mais si c'était ta target, parce que il faut juste changer de cercle. C'est qu'une question de cercle. Aujourd'hui, tu vois, on parle de générer quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dans le cadre de cet épisode. Demain, après-demain, ou mercredi prochain, mercredi d'après, on va sortir un épisode où on parle de quelqu'un qui en a généré 100 millions sur les 18 derniers mois. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que cette personne-là est dans un cercle qui est complètement différent, avec du coup une dimension complètement différente et un cercle social et des gens qui l'entourent et qui côtoient au quotidien, qui ont sensiblement le même niveau de revenus et de résultats que lui. Et donc, son monde est différent également. Et c'est vraiment cette vision. Donc, actuellement, tu es dans un monde où générer 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est énorme et ça fait peur. Demain, tu peux être dans un monde où générer 1 million d'euros par mois, c'est la normalité. Donc, en fait, c'est vraiment ce positionnement personnel qu'il faut avoir dans son environnement. Et c'est pour ça que moi, pour ma part, je veille de plus en plus. Et attention, hein, c'est pas une question de je me sens pousser des ailes ou autre, mais je veille de plus en plus avec qui je passe du temps. Je fais de plus en plus attention des endroits où je vais. Je fais de plus en plus attention à ce que j'entends et je vérifie les sources une deuxième fois. Alors que pendant beaucoup d'années, sur ce marché, je me disais, ah, c'est sur Internet, donc c'est que c'est vrai. Ah, il a dit ça, donc voilà. Et la réalité, c'est qu'après un certain temps, en creusant, en regardant, en écoutant, tu te rends compte que c'est souvent ceux qui parlent le plus qui en ont le moins. Et il faut savoir faire la part des choses par rapport à ça. Donc ça, c'est plus pour le point, on va dire, général.
Ouais.
Et après, bon, certes, il y a l'argent, mais la réalité, c'est que c'est pas le plus important. C'est pas le plus important et ça dépend vraiment des personnalités. Voilà mon point de vue sur la question.
Trop cool. Bien, merci.
Pour rester du coup sur la thématique du business en ligne, l'entrepreneuriat et des femmes, j'ai encore deux questions pour toi. Et après, on en a terminé avec ce super épisode. D'ailleurs, merci pour toute la valeur et ta transparence dans cet épisode. On le partagera sur toutes les plateformes, on mettra tes liens directement en description et puis on fera aussi un post LinkedIn à ce sujet parce que c'est important et puis je pense que ça va en inspirer plus d'un et plus d'une. C'est si on a une femme qui nous écoute ici dans le cadre de cet épisode, une femme ou un homme, mais je sais que tu coaches et accompagnes essentiellement, voire exclusivement des femmes, quelles seraient les différentes étapes que tu évoquerais, que tu lui partagerais pour pouvoir se lancer directement après l'écoute de ce podcast? Dit autrement, la personne termine cet épisode, termine ce podcast, elle s'est dit « Ok, j'ai eu le déclic grâce à Margot, c'est possible, si elle l'a fait, je veux le faire. » C'est quoi les différentes étapes que tu lui recommandes de faire, de mettre en place dans sa vie, dans son quotidien pour réussir à aller générer ses premiers milliers, ses premières dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec son business en ligne depuis chez elle?
Ouais. Alors moi, je pense que les étapes, elles sont plus simples que ce qu'on peut imaginer. Je pense que ce qui va être vraiment important déjà, ça va être d'avoir la bonne attitude et le bon comportement, à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, passer à l'action, être régulière, être constante, faire les choses, se coucher le soir en sachant qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Je pense que je vais donner les étapes concrètes parce que bah, c'est hyper important, mais le plus difficile, c'est pas vraiment les étapes parce qu'en soi, je trouve que... alors, je dis pas... Je ne veux pas dire que c'est facile de générer ses premiers milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Je dis que la stratégie n'est pas forcément compliquée, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir la bonne attitude, d'avoir la bonne, de faire les actions, d'aller au bout des choses, de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire quand tu ne vois pas forcément les résultats, d'être discipliné, d'être constant. Une fois que tu as ça, moi, ce que je conseillerais en termes d'action concrète, c'est déjà d'être... d'avoir des compétences ou d'être experte sur ton sujet. Je ne sais pas trop si les personnes qui nous écoutent partent de 0-0 ou si elles ont déjà une compétence. Je pense qu'elles ont déjà plus ou moins un business, une activité. Du coup, ce que je ferais, moi, personnellement, c'est d'aller... Moi, je pense que le truc qui m'a fait aller rapidement avoir des résultats, c'est d'aller directement au contact de ma cible, directement au contact des gens que j'ai envie d'accompagner, des gens que je peux aider. Pour moi, le meilleur moyen d'avoir rapidement des résultats, c'est des discussions individuelles, one-one, avec les clients que tu pourrais potentiellement avoir. Moi, ce que j'ai fait quand je me suis lancée, je l'ai dit au début, c'est tous les jours envoyer des messages. J'étais vraiment en mode, j'envoyais, je crois, 30-40 messages par jour à mes abonnés en audio. Je le faisais tous les jours, samedi, dimanche inclus, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc moi, ce que je conseillerais, ce serait de faire ça, d'aller au contact, d'aller poser des questions, d'aller s'intéresser à ta cible, parce que je pense qu'un business qui fonctionne et un business qui marche sur le long terme, c'est un business où la personne à la tête de ce business connaît parfaitement sa cible, connaît parfaitement la personne qu'elle a envie de toucher, connaît parfaitement ses objectifs, ses ambitions, ses rêves, mais aussi ses frustrations actuelles, ses douleurs, ses problématiques, ses blocages, ses difficultés. Et je pense que plus tu vas connaître ça, plus tu sauras un peu naturellement ce que tu as à faire. Parce que si tu sais qui est-ce que tu vises et que tu connais la psychologie, de cette personne-là, tu vas savoir quelle offre tu dois créer, tu vas savoir quelle attitude tu vas devoir adopter par rapport à elle, tu vas savoir quel contenu tu vas pouvoir créer, qu'est-ce que tu vas pouvoir générer comme émotion chez elle pour lui vendre ton offre. Parce qu'à partir du moment où tu connais les frustrations, où tu connais les douleurs et où tu connais les motivations, les rêves, les aspirations de ta cible, tu sais comment créer une émotion chez elle, tu sais comment mettre en avant que tu es la bonne personne pour l'aider. Moi, maintenant que je sais que ma cible, elle rêve d'indépendance, elle rêve de liberté, elle en peut plus d'être dans un quotidien qui la fait pas vibrer, elle en a marre de voir des gens réussir autour d'elle, de pas savoir par où commencer, de pas savoir quoi faire. Moi, dans mon discours, quand je lui parle à elle en individuel ou quand je parle sur mes réseaux sociaux, je dis que je peux permettre à des femmes de devenir libres, de devenir indépendantes, d'arrêter de se comparer et de devenir les personnes qu'elles admirent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, mon conseil numéro un, ce serait d'aller au contact de ta cible, de récolter un maximum d'informations, un maximum de données, de creuser un maximum les discussions avec elle, d'essayer d'en savoir le plus possible sur elle, sur sa psychologie, et de lui montrer ensuite dans la discussion et dans tes contenus que tu peux l'aider à résoudre ses problématiques, à en finir avec ses douleurs, à atteindre ses rêves, à atteindre ses objectifs, ses aspirations. Je pense que la vente, c'est beaucoup une question d'émotion et de confiance. Et si tu es présent tous les jours pour créer du contenu, pour discuter avec ta cible, que tu l'écoutes, que tu lui poses des questions, que tu enregistres des informations et que tu en fais quelque chose ensuite, tu peux très rapidement générer tes premières dizaines de milliers d'euros. Il y a aussi cet aspect d'avoir une offre qui correspond encore une fois à ta cible et de ne pas hésiter à demander du feedback aussi. Si tu as déjà eu des clients, tu peux aller retourner les voir et leur demander qu'est-ce que tu aurais aimé de différent, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en plus, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon offre. Si tu n'as pas encore eu de client, une des stratégies que j'ai utilisées, moi, ça a été de proposer mon offre gratuitement à quelques personnes pour pouvoir justement avoir ces retours-là et être constamment dans une démarche de connaître mieux ta cible, de créer du contenu qui lui parle directement et d'améliorer l'offre que tu peux lui proposer, d'améliorer le service ou la proposition que tu peux lui faire. Je pense que si tu fais ça tous les jours pendant une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, six mois, et que tu lâches pas l'affaire et que tu te réveilles tous les matins et que tu fais ce que tu as à faire, il y a forcément un moment où ça finit par payer. Ce sera peut-être pas aussi rapide que ce que tu aimerais, ça prendra peut-être un peu plus de temps, ce sera peut-être difficile de garder le cap, mais si tu fais ça tous les jours pendant des mois et des mois jusqu'à ce que ça paye, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas.
Complètement, et puis le fait de lui vendre un produit qui répond réellement à son besoin et de lui exprimer le fait que c'est le moyen le plus rapide et simple pour atteindre son objectif, c'est évident, avec un prix qui exprime 1% ou 10% de la valeur qui est délivrée aux yeux de la personne par rapport à la douleur et l'urgence qu'elle en a. Ça, c'est capital. Merci Margot pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment une masterclass, encore une fois. Et si d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en partageant cet épisode, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant un avis sur Apple Podcast, sur votre plateforme de streaming préférée, en interagissant sur le post LinkedIn lié justement à cet épisode. Dernière question que j'ai à te poser et que je pose à chaque personne qui vient sur le plateau du Déclic. Parmi tout ce que tu as partagé, est-ce que tu pourrais nous partager, s'il te plaît, un déclic, un élément qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi? Donc quelque chose que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, mais qu'en tout cas, tu n'as pas encore partagé ici aujourd'hui. Ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, une prise de conscience, peu importe. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
Ouais, alors j'ai un truc qui me vient, que j'ai jamais partagé nulle part, je crois, et qui pourtant a eu énormément d'impact dans mes résultats ces derniers mois. Ça a été une phrase que m'a dit ma mamie quand j'avais été la voir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle écoutera ce podcast, donc petite dédicace. Mais en fait, ma mamie, elle a toujours suivi avec application tout ce que je faisais tout le temps, toutes mes stories, mes podcasts, mes webinaires, mes interviews. Elle est partout tout le temps. Et j'avais toujours trouvé ça trop mignon, mais j'avais jamais trop compris pourquoi. Et un jour, on discutait toutes les deux. J'avais été la voir un dimanche et elle m'a dit: mais tu sais, Margot, si moi, à mon époque, j'avais eu un exemple comme toi d'une femme qui osait sortir de, enfin, s'enlever de ses barrières, qui osait parler haut et fort, qui gagnait de l'argent, qui voulait sa liberté, son indépendance, ma vie, elle aurait été radicalement différente. Moi, je me suis toujours sentie opprimée, je me suis toujours sentie réduite, sans aucune possibilité de sortir de ma condition, de ma situation. Et c'est pour ça que je te suis autant, c'est parce que tu m'inspires et j'aurais aimé avoir un exemple comme toi quand j'avais ton âge. Donc continue à faire ce que tu fais et moi je te soutiendrai toujours et je serai toujours ta plus grande fan. Et en fait, cette phrase et cette vision que ma mamie avait de moi et de mon travail, ça m'a ancré encore plus à ma mission et ça m'a poussé encore plus à me dire: mais je veux que chaque femme qui m'entende et qui m'écoute puisse sortir des barrières qu'elle se met, puisse dépasser ses propres limites, puisse créer la vie qu'elle veut plus que tout pour elle. Et c'est ce qui m'a ancré encore plus à ma mission. Et je pense que c'est un des plus gros déclics que j'ai eu dernièrement et que j'ai jamais partagé nulle part.
Merci Margot.
Avec plaisir.